Sud Radio, Invino, Alain Marty, midi 30, 13h.
Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce rendez-vous dominical d'Invino Sud Radio. Nous sommes en public et délocalisés chez le caviste Nicolas à Paris, 31 Place de la Madeleine à Paris, donc au cœur de la capitale. Je rappelle que vous écoutez Sud Radio à Avignon par exemple sur 95.2 et qu'on peut se retrouver sur notre page Facebook Invino. Aujourd'hui un menu qui prêche comme d'habitude la consommation modérée et responsable avec le vignoble du Minervois, la notion de minéralité dans le vin, un accord mets et vin très original et puis le vin quiz pour gagner des cadeaux en jouant sur invinoradio.fm. À mes côtés, les voix féminines de cette émission et on en a besoin, Hélène Piou et Claire Brachet. Bonjour mesdames.
Bonjour.
Et puis Philippe Porbrac avec Fabien Imbert et David Cobol. Bonjour messieurs.
Bonjour. Bonjour.
Alors pour commencer cette émission, Invino Sud Radio retrouve vous, Fabien Imbert, journaliste à la RVF, la Haute-Vin de France, pour tout nous dire sur un sujet qui peut être parfois très 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 douloureux, le prix du vin au resto.
Alors douloureux pour le portefeuille. Alors comment j'ai eu l'idée de cet article, c'était pas en allant au restaurant de Philippe Formbrac, mais plutôt aller dans un restaurant du 8e arrondissement de Paris, un restaurant étoilé. J'ai invité ma copine de l'époque.
Quel est son prénom? Quel était son prénom?
J'aime bien le terme époque, c'est-à-dire que c'est fini. Hein.
C'est ça. Quand vous avez payé l'addition, vous avez décidé que c'était fini.
Je suis transparent.
C'est pour ça que ça vous a semblé très cher, c'est parce que c'est fini.
Puis très long le dîner aussi.
Non, c'était un bon moment, etc. Mais donc j'ai commandé du champagne, du ruinard, et
c'était
à la carte. Et j'ai payé 35 euros la coupe. Alors bon, ça m'a semblé un peu beaucoup, donc je suis allé aux toilettes, et puis j'ai vérifié sur mon portable combien coûtait une bouteille. Et une bouteille coûtait 50 euros. C'est-à-dire qu'en vendant une coupe, le restaurateur pouvait...
Vous avez passé votre dîner aux toilettes, quoi, non?
C'est ça, j'ai pleuré. J'ai pleuré, et du coup, elle continue de boire en attendant. Donc,
ouais. C'était confortable.
Donc du coup, en une coupe, la bouteille était finalement...
quasiment rentabilisée.
Alors qu'une bouteille peut avoir, on peut avoir 8 ou 9 coupes dans une bouteille.
Si je peux me permettre, c'est plutôt 6 ou 7.
6 ou 7, ouais. Bon, bah alors...
Ça dépend le volume.
Ça dépend de la coupe.
En général.
Bah, ça dépend de la copie du moment
c'est
de Fabien.
6 ou 7, ouais.
Bon, alors je vais pas refaire ma chronique, mais donc les consommateurs, par contre, avaient toujours plus ou moins conscience de payer un peu cher le vin au restaurant.
Ouais.
Mais depuis finalement que les prix publics sont disponibles sur Internet et que tout le monde a des téléphones portables, quand on va au restaurant, on peut regarder quel est le prix public d'une bouteille. Donc pour les restaurateurs qui abusent, c'est la fin de l'impunité. Alors j'ai pris volontairement l'exemple d'un restaurant étoilé dans un quartier chic, mais la vérité c'est que dans l'immense majorité de la restauration, les coefficients multiplicateurs sont entre 3 et 7.
C'est-à-dire vous confirmez Philippe Forbrack? Oui. Entre 3 et 7.
Ouais, voilà. Alors après ça dépend. Donc par exemple une bouteille qu'un restaurateur va acheter 5 euros, vous allez la retrouver à 25 ou 30 euros. Mais c'est pas une loi générale. Certains restaurateurs font des coefficients moins élevés, d'autres des coefficients plus élevés. Parfois, dans une même carte des vins, on peut avoir des coefficients de 10, donc une bouteille achetée à 10 euros, on va la retrouver à 100 euros, ou des coefficients de 2, une bouteille achetée à 100 euros, on la retrouve à 200 euros, ce qui fait quand même une culbute de 100 euros. Hein.
Je vous interromps une seconde, Fabien. Philippe Forbrac, qui est professionnel, justement, expliquez-nous. C'est pour lisser, justement, la carte des vins, ce qu'explique Fabien, là, qu'il y ait des vins qui se fassent une culbute de 10 et d'autres
exactement.
De 2.
La notion de coefficient est relative, finalement, c'est plutôt de marge.
Oui, c'est ça.
Je vais en parler.
Oui, vous avez raison. Laissons Fabien terminer, parce que c'est
intéressant.
Oui. Alors, justement, on va donner la parole à la Défense. La plupart des restaurateurs que j'ai interviewés m'ont juré et craché, pas dans la soupe, je vous rassure, qu'en pratiquant des coefficients modérés de 3 ou 4, ils gagnaient en fait très peu d'argent. Il faut en effet payer le loyer, le personnel, les charges, les taxes, l'électricité, la verrerie, les nappes, les couverts, et j'en passe.
Le tire-bouchon.
Les vertes et des pas mûres, les tire-bouchons.
Sur le papier de toilette,
on n'y pense pas assez.
Bref, il ne faut pas confondre la marge et le bénéfice.
Exactement.
Dont vous parliez. C'est-à-dire qu'il reste, une fois tous ces frais pris en compte, entre 5 et 10%, ça dépend des fois. Beaucoup mettent aussi en avant le fait qu'ils gagnent peu d'argent sur la nourriture. C'est alors que lorsqu'ils font des plats faits maison avec des produits de qualité de saison et qui sont servis le midi, donc c'est des menus entre 20 et 30 euros entre plats dessert, bah, en fait, ils ne gagnent pas d'argent. Donc, ils essaient de gagner de l'argent sur le vin, la bière, le café et l'eau. Mais bon, ça, c'est dans les bons restaurants qui jouent le jeu. C'est-à-dire, dans des brasseries qui font des plats préparés, on ne me fera pas dire qu'ils ne gagnent pas d'argent avec la nourriture. Donc ensuite, vendre du vin à prix raisonnable, c'est possible. Il y en a qui le font. Par exemple, il y en a qui font du 2,2 en coefficient.
Quelques noms peut-être de resto,
oui,
Fabien,
par exemple, le Vert et le Vin à Paris.
À Paris, d'accord. Et en province aussi, bien sûr.
En province, bah, je vais parler aussi de la province. Hein. Alors comment ils font? Par exemple, le Vert et le Vin, ils sont à la fois restaurateurs, cavistes, grossistes, qui multiplient donc les occasions de faire de la marge. Même chose, plus c'est le vin est peu cher, finalement, et plus ils multiplient les occasions de faire de la marge. Mmh. C'est-à-dire, au lieu d'avoir une bouteille qu'ils vendent x4, et ils en vendent deux, qui font un coefficient multiplicateur de x2. Ensuite, les grands buffets à Narbonne font encore mieux parce qu'ils achètent le vin à prix caviste, c'est-à-dire avec une décote de 40%, et ils le vendent donc 40% plus cher qu'ils l'ont acheté. Et donc là encore, ils vendent plus de bouteilles, et ils se sont rendus compte qu'en ayant des prix doux, en fait, les gens vont acheter des bouteilles plus chères que ce qu'ils pensaient mettre au départ. Donc en fait, ils vont se lâcher un peu plus. Donc là encore, ils gagnent plus que prévu. Alors après, il y a, peut-être pour finir, il y a le cas des vins rares et spéculatifs. Là, c'est très compliqué. On ne sait jamais combien les restaurateurs l'ont acheté. C'est-à-dire, s'ils l'ont acheté en allocation, ils peuvent l'avoir à un prix raisonnable. Par contre, s'ils l'ont acheté en second marché, c'est-à-dire chez des professionnels ou aux ventes aux enchères, là,
c'est
ils l'ont acheté
plus cher,
prix fort. Donc, avant, à 400 euros, est-ce qu'ils l'ont acheté 100 euros ou 350 ? C'est impossible de savoir. Donc voilà, en fait, pour ces vins-là, en fait, l'essentiel pour les sommeliers et les restaurateurs, c'est de les vendre aux bonnes personnes, à celles et à ceux qui sont prêts à payer le prix, mais surtout qui sont aptes à les apprécier vraiment.
Oui. Oh, petite réaction avant le sujet de Philippe Forbach. Claire Bachy, vous en pensez quoi ?
Que c'est très difficile au restaurant, effectivement. C'est assez difficile de bien choisir et puis de ne pas avoir ce petit sentiment, toujours se dire quand même...
C'est cher, quoi.
Ou un petit peu, oui.
Ouais.
Et souvent,
ouais.
le vin ou verre, est intéressant aussi.
Oui, c'est vrai. Ça permet de varier avec un verre sous l'entrée, un autre sur le plat, donc au-delà du prix. Hélène ?
Oui, et en plus, ça encourage la modération parce qu'effectivement, en général, on fait deux verres par repas, on ne va pas au-delà. Alors
Le midi, Philippe, je pense pas qu'il y a beaucoup de gens qui prennent une bouteille chez vous le midi, plutôt en verre, non ?
Non, c'est plutôt des verres au verre.
Ouais. Ouais. David Cobold ?
Je pense que le moment où les gens raisonnaient en coefficient pur devrait être dépassé. Et il faut raisonner en marge totale. C'est-à-dire qu'il vaut mieux vendre avec une marge de, je dirais, 50 euros ou 20 euros ou 30 euros, quel que soit le prix d'achat du vin, puisque, au fait, le travail est le même. Quel que soit le prix d'achat de la bouteille, c'est le même verre, c'est le même tire-bouchon, c'est le même sommelier qui fait le boulot. Donc pourquoi marger avec une coefficient et pas marger avec des marges fixes ? Et ça encouragerait la vente de meilleurs vins, ce qui est quand même dans l'intérêt du restaurateur et du monde du vin en général.
Oui. Un dernier paramètre.
Le vin au verre, en fait, c'est un coefficient multiplicateur plus élevé que la bouteille.
La bouteille, ce qui est logique.
Voilà. Ce qui aujourd'hui n'a plus vraiment raison d'être parce qu'on sait conserver le vin.
Oui, c'est ça.
Bonne
remarque. Philippe Forbach, alors aujourd'hui, vous êtes le président de la sommellerie française. On part dans le sud.
On part dans le sud, oui. Je vous amène du côté du Minervois.
Ah, belle région.
Une belle appellation, assez connue, assez déjà historique, et une appellation que j'ai suivie moi depuis très longtemps, parce qu'ils organisaient, je me souviens, une trentaine d'années, un concours de cuisine qui réunissait à l'époque les grands noms de nos fourneaux.
Et vous aviez gagné ?
J'avais pas gagné, mais j'étais jury. Déjà à l'époque, puisque c'était plutôt les cuisiniers qui étaient jugés, et une volonté d'installer finalement cette appellation au sein de la gastronomie. Alors on est aux confins de l'Aude et de l'Hérault, en plein cœur du Languedoc, hein, dans un endroit qui, Minervois, ça vient de Minerve, qui est le nom de la commune principale de cette belle appellation. Et il y a un terroir dont on parle beaucoup.
Et d'une déesse grecque, il ne faut pas
l'oublier. Oui, exactement. Oh, arrêtez, c'est Minerve.
Exactement. Ouais. Et puis il y a un terroir particulier qui est la Lévinière, qui est un cru, effectivement, qui est assez intéressant, en plein cœur de cette belle appellation. On est au pied d'un secteur géographique qui s'appelle la Montagne Noire, célèbre aussi, non seulement pour ses balades, mais également comme promontoire qui surplombe un peu cette appellation et qui est aussi un écran, notamment au niveau des intempéries, oui. Exactement, sur cette belle appellation. Alors, on y produit... majoritairement des rouges à partir de Syrah, Mourvèdre et Grenache, donc vraiment l'encépagement assez traditionnel du coin. Mais on a aussi, et heureusement, gardé quelques vieux carignans qui peuvent donner vraiment des très jolis résultats. C'est un cépage qui a ses limites, mais qui peut donner des résultats très intéressants lorsqu'il est en coteau, lorsque les rendements sont maîtrisés. On a des arômes un peu sauvages, légèrement épicés, qui sont très intéressants et qui complètent bien la palette aromatique des Syrah, Grenache et
Mourvèdre. Hélène Piau adore les arômes sauvages, je crois.
Oui, mais poilu, surtout.
Ça sent la bête,
en fait.
C'est ça. Alors, on trouve aussi du cinceau, du terré, du pic-poule ou encore de l'aspirant, qui sont des vieux cépages locaux qui ne peuvent rentrer qu'en complément dans l'assemblage, mais qui apportent une originalité que je trouve extrêmement intéressante. Ce sont des vins Alors, Minervois, on peut aussi trouver des rosés en Minervois. On y produit un petit peu de blanc aussi. Les rouges me semblent plus intéressants. Ils ont surtout une très belle capacité, notamment ceux de la Lévinière, de garde.
Ah, combien d'années, Philippe ?
Souvent, les vins du Languedoc...
Oui, c'est à boire dans les 5 ans.
On se dit, voilà, 4-5 ans. Et finalement, sur les crus notamment de la Lévinière, les vins atteignent facilement les 10 ans.
Et ça donne quoi, justement, au bout de 10 ans, comme type de goût, Philippe ?
Alors, lorsqu'ils sont jeunes, ils sont souvent ce côté fruit noir macéré, souvent et poivré, lorsque la Syrah notamment, qui est un cépage qui a été apporté finalement assez récemment, parce que le Carignan, le Grenache, voire le Mourvèdre, c'est des cépages un peu plus historiques. La Syrah, c'était un cépage dit améliorateur, qui dans les années 70, surtout 80, est venu s'implanter dans ces appellations-là, et dans cette région-là, d'une façon un peu plus marquée. Et lorsqu'il prend de l'âge, effectivement, le côté tertiaire, le côté un peu plus sous-bois, les arômes plus du monde animal, plus que du monde finalement végétal, prennent un petit peu le relais. Et lorsque c'est pas trop insistant de ce côté-là.
C'est-à-dire quand ça pue la bête.
Quand ça pue pas trop la bête, justement, mais quand ça l'évoque un petit peu, c'est assez intéressant. Et notamment en termes d'accord mets et vins, ça laisse, en termes de gastronomie, des possibilités très intéressantes.
Combien ça coûte une bonne bouteille ?
Alors, les crus du Minervois, on peut en trouver une dizaine d'euros sans aucun problème chez la plupart des cavistes. Après, quand on monte sur la Lévinière, on a effectivement des prix plus élevés, plutôt 15 à 20 euros. Et puis après, il y a des stars. Je pense le Clodora, par exemple, qui est une des rares cuvées de Gérard Bertrand. Ce sont des vins qui peuvent coûter jusqu'à plus de 100 euros la bouteille.
Il y a beaucoup qui l'achètent à ce prix-là.
100 euros, donc effectivement, c'est très limité en quantité.
Et en prix, c'est élevé, quoi.
C'est élevé en quantité.
C'est pas pour tout le monde.
Oui, exactement. C'est élevé en prix, mais ce sont des très jolis vins. Et on peut constater que, notamment dans les terroirs d'altitude, comme toujours, on fait des vins beaucoup plus élégants. Sur des schistes, on a des vins qui se comportent très, très bien. D'autres vignerons, la Borie Blanche, par exemple, qui appartient à la famille de l'Orgeril, le Maury de Morel, le Cantocelle, Clos Santeil, Gourgazo, la Ville Bertrou, etc., l'Ostalcaz.
À ne pas oublier. Merci beaucoup, Philippe Farbach. Merci à tous. Dans un instant, on se retrouve au bar à vin du caviste Nicolas à Paris. On parlera de beaucoup de choses, notamment du concept de minéralité.
Sud Radio, Invino, Alain Marty, midi 30, 13h.
Retour à la cave Nicolas, place de la Madeleine à Paris, pour cette émission en public et délocalisée avec David Cobold, le cofondateur de l'Académie du vin de Paris, pour nous parler de la minéralité, David. C'est parti, vous avez 5 heures.
Oui. Non, mais je vais prendre beaucoup moins de votre temps, rassurez-vous. Je suis souvent frappé par le fait qu'il y a des vagues, des modes dans le vin et des modes dans les descripteurs du vin, les manières de parler du vin. À un moment donné, quand j'ai commencé dans le vin, c'était avant la guerre, on parlait de vin joufflu, de vin qui avait de la cuisse, des vins...
Des vins joufflus ?
Oui, ah oui, ou qui avait de la cuisse, il y avait tout ça.
Fessu aussi, non ? Je sais pas.
Fessu, oui. Gouléant.
Lipu, les lèvres.
Le dernier mot à la mode, c'est des vins minéraux ou avec de la minéralité. Alors, ça m'interpelle parce que ce mot a surgi, je dirais, dans les 10 dernières années. Avant, ça n'existait pas.
Avant, c'était joufflu, avant.
Oui, non, mais joufflu ou maigre ou acide, c'est-à-dire qu'on appelait un chat. Maintenant, on prend des contournures pour appeler minéral, pour éviter de dire « c'est un putain d'acidité hein, », excusez-moi l'expression. Bon, alors, je vais quand même...
Les vins qui ont de la tension, ça c'est...
Oui, alors après, on peut raffiner les choses.
Laissez David s'exprimer.
Qu'il y a une tension minérale ou une minéralité tendue. Je dis, moi, je ne bouffe pas du fil de fer tendu. Donc, je ne sais pas ce que ça veut dire.
Du fil de fer tout court, d'ailleurs.
Alors, oui, je ne mange pas des clous non plus et je ne lèche pas mon évier.
Allez-y, Fakir Kobold, allez-y.
Moi, je vais jouer le Fakir. Donc, on va essayer d'expliquer un peu. Alors, d'abord, minéral, qu'est-ce que c'est ? Les minéraux qui existent dans la terre, sur la terre, ne sont pas absorbés par la vigne. Ça, c'est un fait. Et demain, je vais expliquer pourquoi ils ne sont pas absorbés par la vigne. Parce que ce sont des molécules longues, complexes, et ça ne peut pas rentrer dans le système racinaire de la vigne. Éventuellement, des éléments peuvent rentrer dans la vigne, mais pas des minéraux, au sens scientifique du terme. Là, je vais parler des descripteurs, c'est-à-dire qu'est-ce que les gens sous-entendent quand ils disent minéral. Alors, quand on fait la connotation entre un descripteur minéral et le vin qui est décrit ainsi, en général, c'est un vin qui n'a pas beaucoup d'expression fruitée, qui a une acidité forte et éventuellement avec ce qu'on appelle la réduction soufrée, c'est-à-dire qu'ils sont un peu durs en bouche parce qu'ils ont été soufrés, c'est-à-dire que c'est essentiellement des vins blancs issus de climats frais. Alors ça, c'est clairement connoté. Il est rarement le cas qu'un chardonnay d'un pays très chaud, semi-tropical du Nouveau Monde ou du Languedoc, par exemple, soit décrit comme étant minéral, parce qu'il y a beaucoup de fruits, il y a du bois, il y a de l'alcool, il y a de la rondeur en bouche. Donc, ce n'est pas un minéral, c'est le contraire. Donc, en général, on pourrait même dire que quand on dit qu'un vin est minéral, c'est pas une négation. C'est-à-dire qu'il n'a pas autre chose à dire. Alors, ça, c'est un peu extrême, c'est un peu excessif, je suis d'accord, donc je n'irai pas jusque-là, mais c'est un peu ça, c'est-à-dire qu'il n'est ni fruité, ni boisé, ni alcooleux. Après, on peut analyser les choses en disant que c'est une manière de contourner l'obstacle, de dire qu'un chat est un chat, c'est-à-dire un vin à beaucoup d'acidité. Hein. Ensuite, il y a la réduction soufrée qui entre en ligne de compte, qui donne une texture un peu dure, un peu ferme, qui agresse un peu la bouche, donc on imagine qu'on est en train de manger des clous ou quelque chose comme ça. Après, sur le plan de l'inférence, qu'est-ce qui est entendu quand un vigneron ou un communicant du vin, que ce soit un journaliste, un sommelier, n'importe qui dit « ce vin a une belle minéralité ». Il est en train d'essayer de nous faire croire que c'est la nature du sol qui a conditionné ce goût-là. Et là, j'en parlerai demain. Parce que c'est ce qu'on appelle le spin doctoring du langage du vin. C'est-à-dire qu'on essaye de nous faire une connexion entre la nature du sol et le goût du vin. Ce qui est quand même capillotracté. Et ça, je l'expliquerai davantage demain. Alors, c'est très difficile de décrire les vins. Aucun mot n'est vraiment approprié à une description de vin. Et je trouve que le mot minéral, c'était encore un mot valise, comme on disait qu'autrefois, le vin avait de la cuisse, ça ne voulait rien dire. Eh bien, le mot minéral ne veut pas dire grand-chose non plus. Disons que ça va dépendre de qui parle et de quel vin on parle.
Oui, c'est ça. Alors, ça devient encore... Petite réflexion avant de parler d'autres sujets avec Claire. Si je vous parle de minéralité, Hélène, ça vous excite ?
Alors, ça ne m'excite pas forcément, non. Par contre, contrairement à David, moi, ça m'évoque, oui, des goûts très précis. Alors, de silex, et non, David, je n'en mange pas tous les matins au petit déjeuner dans mon porridge. Mais c'est vrai que si vous vous promenez dans une garrigue, si vous vous promenez sur une falaise de granit, si vous vous promenez sur une falaise de craie, les odeurs qui se dégagent, ce ne sont pas les mêmes. Et cette odeur-là, effectivement, on l'a traduit en goût. Alors, tout ça est mental, évidemment, mais on l'a traduit en goût. Et moi, je vois assez bien ce que ça veut dire, la minéralité.
Ça s'appelle de la projection. Il y a une étude en cours en Nouvelle-Zélande pour essayer d'établir une corrélation entre le contenu de calcium dans un vin et le descripteur sur ces vins dégusté à l'aveugle, décrit comme étant minéral. On va voir ce que ça donne. Mais
c'est très intéressant.
Donc, entre le pH et l'acidité titrable, et aussi le contenu en calcium. Sachant que le calcaire ne peut pas passer directement. Il faut qu'il soit décomposé. Alors, c'est très compliqué, cette affaire-là.
Merci, David. Cette étude sera vraiment à suivre, parce que ça, c'est vraiment intéressant.
Une vidéo sur Radio, on trouve maintenant Claire Brachet, auteur du guide Brachet, hein, des vins véganes et végétaliens. Pour une idée originale, oui. Un accord mets et vins à base de l'ail.
L'ail nouveau. Et fort heureusement, je ne vais pas vous parler d'un vin minéral après. Donc c'est bon.
Alors, juste avant, vous y croyez-vous côté minéralité, parce que...
Je rejoins assez Hélène, mais bon. Voilà, effectivement, c'est peut-être le cerveau qui essaie de se raccrocher à quelque chose qu'il connaît, mais comme dans tous les goûts.
Et vous, Philippe ?
On a déjà eu l'occasion d'en parler pas mal autour de cette table, mais c'est vrai que les arômes de silex, les arômes de
Mais le silex n'a pas d'arôme.
Non, mais la craie, le granit, quand on se promène quelque part...
Quand tu frottes de silex, il y a ce côté un peu fumé qui est particulier et qui évoque quand même quelque chose.
Bon, allez, Claire, revenons sur la...
C'est quelque chose qui a une odeur bien particulière aussi.
Les arômes graphite qu'on trouve dans certains Bordeaux.
Vous êtes clair aussi. Il y a plein de clairs ici.
C'est aussi des clairs. Ou le côté hydrocarbure qu'on a dans certains restings.
Ça, c'est autre chose.
Parlons d'eau. Le pluriel de l'ail, c'est quand même les eaux.
Les eaux.
Mais c'est quelque chose qu'on trouve.
Anaï des eaux.
Oui, anaï des eaux. Absolument.
Très bien. Anaï des eaux. Il faut écouter cette émission.
Et donc, plus spécifiquement, je vais vous parler de l'ail nouveau. Si on repense à l'ail, on pense mauvaise haleine, mal au ventre, difficile à accorder avec le vin. On lui trouverait presque comme seul bénéfice de repousser les vampires.
Oui, c'est ça.
Heureusement, si on a... C'est déjà ça, bah, effectivement.
C'est pas mal, comte Dracula.
Si on a un peu l'habitude de cuisiner, on sait que quand même, en le dégermant, en le rôtissant, en l'améliorant avec de l'huile, etc., on peut quand même se faire plaisir et dépasser un petit peu le côté violent qu'il peut avoir en bouche ou dans l'estomac. Et souvent, quand on n'a pas de l'ail nouveau, qu'on a de l'ail classique, il est souvent un petit peu trop desséché, il a longtemps traîné au frigo, et là, voilà, on perd quand même tout l'intérêt gustatif. Pour revenir sur cette histoire de vampire, parce que quand même on y pense forcément, malheureusement je ne suis pas spécialiste de démonologie, donc je ne pourrais pas vous dire si vraiment ça marche. Hein, vous remarquerez la pertinence du vraiment. Est-ce que ça marche?
Écoutez, la semaine prochaine nous inviterons donc un vampire dans l'émission
pour vérifier
si avec la gousse d'ail...
Mais apparemment ça viendrait de l'Égypte ancienne et bon, ça a surtout des vertus en fait au niveau santé, donc il y aurait eu des liens à ce niveau-là. Niveau culinaire, en fait, l'ail nouveau, ce qu'il a d'intéressant, c'est qu'il est vraiment très frais, il est assez riche en goût et il est beaucoup moins agressif que son aîné un peu trop desséché.
D'accord.
Et on le remarque parce que la tige est encore verte et l'ensemble des goûts, au lieu d'être blanc, est un petit peu rosé. Et on peut tout cuisiner. Je ne saurais que vous recommander de le tester en velouté. Vous faites rôtir les gousses au four avec de l'huile d'olive et vous mixez. Ou bien de suivre une recette recommandée par Régal de crème brûlée à l'ail nouveau.
Qui est excellent vraiment, magazine.
Voilà.
C'est la crème brûlée.
Excellent.
Crème brûlée à l'ail nouveau.
Et cet été, vous aurez même des recettes de soupe de melon à l'ail. Et ben c'est super bon. Soupe
salée. C'est quoi? C'est votre année aïe, là, cette année là? C'est aïe, 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 quoi, non?
Ah ben écoute, on est comme ça, Régal.
Bah oui, royal aïe, aïe.
C'est
et
ça.
Côté vin, donc on peut aller sur du rouge, sur du carignan, notamment quand l'ail est un peu rôti, sur de la ligotée en blanc, ou bien aller sur la cuvée Premier Roll du domaine des Amiel, qui est celui dont je vais vous parler, et on retourne un petit peu dans le sud, puisqu'on est dans le Languedoc. Le domaine des Amiel, alors à ne pas confondre avec le Massamiel, qui est un petit peu plus au sud, c'est la réunion de deux frères, Jordan et Emeric, qui ont repris un domaine familial qui avait plus de 500 ans. Ils travaillent en biodynamie, ils travaillent aussi, ce qui est très intéressant, ils font des jus de raisin, carignan et syrah, qui sont vraiment à tomber, et de l'huile d'olive aussi très très bonne, qui porte le nom de Serenolia. Je fais rapide parce qu'on ne m'a pas laissé trop le temps, mais je parle vite du vin. Donc celui dont je vous parle, c'est Premier Roll, R-O-2-L-E. Donc c'est le
D'accord,
cépage.
D'accord, voilà. Si, le cépage.
Exactement, le cépage qui a longtemps été cantonné du côté de Nice et de l'appellation Bellet, et dont apparemment la génétique aurait permis de savoir maintenant qu'en fait c'est plus ou moins le Vermentino, ou en tout cas un cousin proche du Vermentino italien. Et eux, ils ont vraiment su le sublimer et l'adapter au terroir du Languedoc. On a un vin très fruité, agrume, qui marche très bien sur un ensemble de repas. Il n'est pas acide du tout. Et côté accord, on peut aller sur ce qui est beaucoup vert, le fenouil, les haricots, le concombre.
Donc il n'est pas minéral.
Il n'est pas du tout minéral, c'est pour ça que j'ai vraiment respiré, j'étais soulagée. Et côté prix, vous pouvez l'avoir autour de 12 €, sachant que le domaine des Amiel a une gamme entrée de prix et une gamme un petit peu plus poussée où ils valorisent tous les ancêtres qui sont passés pendant 500 ans sur le domaine. Donc je vous encourage vraiment à les découvrir.
Bah, on réagit un petit peu peut-être sur l'ail, Philippe Forbrac, en restauration, c'est un plat réel.
En restauration, les gens nous interpellent des fois, nous disant il n'y a pas d'ail, madame. Ouais. En tant que.
Il n'y a pas d'ail pour
titre personnel et en tant que provençal, c'est une saveur que j'adore.
Moi aussi.
Et effectivement, Claire le disait tout à l'heure, lorsqu'on enlève le cœur, on le dégerme donc, et qu'on le fait juste rôtir ou confire, c'est
super bon.
Oui, juste écrasé.
C'est la période en ce moment, Claire.
C'est
la pleine période de l'ail nouveau, là, oui, on est.
Donc vous,
jusqu'à juin, à peu près.
Jusqu'à juin, d'accord.
Fin juin.
Ah oui. Mettre une tête d'ail entière dans dans un rôti qu'on fait cuire des légumes, par exemple, pour les véganes ou un plat de viande ou de poisson, c'est juste
super bon. Merveilleux.
En Espagne, les petites gousses d'ail dans l'huile, comme ça,
exactement,
qu'on grignote à l'apéro, qui n'ont pas un goût très fort, avec un verre de fino, là. Juste, vous voyez, vous êtes dans le sud de l'Espagne, vous posez en terrasse.
Même en Andalousie.
C'est David Cobol, nu sur la plage, là, avec la gousse d'ail.
Alors, assez vite, ça, j'avais pas pensé. Vous mettez où, la gousse d'ail?
Bon, savoir ce que. Et vous, Fabien, alors c'est pas où vous la mettez, mais c'est. Alors, vous aimez l'ail?
Par contre, je trouve ça très bien de faire des recettes pour des vins végétariens et vegan. Et par contre, souvent, sur les contre-étiquettes de ces vins-là, on voit va très bien avec de la viande.
Oui,
oui, c'est vrai, c'est drôle.
Excellent, ça. Oui. Merci beaucoup, Claire Brachet. Merci à vous, Hélène Pio, Philippe Forbrac, David Cobol et Fabien Humbert. Merci également à Charlotte qui a préparé cette émission, ainsi qu'à Sébastien pour la technique. Fin de ce numéro d'Invino Sud Radio. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site sudradio.fr. Invinoradio.fr ou sur notre page Facebook Invino. On se retrouve samedi prochain à 12h30 précise pour une nouvelle émission, toujours en public et délocalisée chez Nicolas, le caviste fondé en 1822. D'ici là, ça y est, vous donne appétit. Excellent déjeuner avec plein d'ail. Restez à l'écoute de Sud Radio et surtout observez la plus grande des modérations.